5 mai, troisième cours sur Hilchot Shabbat. Ce cours donc est donné pour la Hatzlaha de Ilan Ben Shlomo. Et il a été aussi en aide par le site internet cérémonieexpress.com. Et nous avons une pensée tous pour les deux jeunes gens qui se sont fait massacrer à Créteil. Yehoshua Ben Elisheva, Raphaël Reuven Ben Elisheva, Refoua Shelem Alaim.
Amen.
Amen.
Go.
Amen.
On y va, allez.
On y va.
Alors, Shavua Tov à tout le monde.
Shavua
Tov.
Alors, on va continuer les shiurim. On a commencé déjà depuis deux semaines. Avant de commencer les cours, je veux juste préciser, pour moi, c'est nouveau. De donner un cours à de cette manière, c'est tout nouveau pour moi. Donc, je ne suis pas encore de manière naturelle et j'ai. Et il y a un point qu'il faudrait qu'on dise avant le cours. Il faudrait que je sache est-ce que vous êtes avec moi, est-ce que vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire, quand j'utilise des mots, alors je peux utiliser des mots en hébreu pour que vous ne compreniez pas, ou bien des mots en français qui sont mal expliqués. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai quitté la France. Donc ça, mon français n'est pas de manière bien.
Et c'est bien parce que tu as quitté la France depuis
1997. Que j'ai?
Depuis 1997 que tu as quitté la France.
95. Ah. Ouais. Et aussi, surtout, des questions de compréhension. C'est-à-dire que si jamais vous ne comprenez pas ce que je dis, il ne faut pas avoir honte de m'interrompre et de me dire je ne comprends pas ce que vous avez dit, ce mot en hébreu ou l'explication, ou même des questions, au moins que c'est des bonnes questions qui sont directement liées à ce que je dis. Et le Pirkei Avot nous dit Lo Abayshan, Lo Med. Celui qui a honte n'apprend pas. Donc il ne faut pas hésiter, de manière claire, de manière précise, à me dire, à m'arrêter, à m'interrompre. Et à chaque étape, je m'arrête et je vous demande ce que vous avez bien saisi. Parce que si quelqu'un n'a pas compris ce que je dis, c'est dommage. On ne peut pas avancer si les choses ne sont pas claires et comprises. Donc, j'espère qu'on va s'habituer. Je donne beaucoup de cours, mais je donne des cours à des personnes en direct où il y a un lien. Là, c'est tout nouveau, mais ça, ta chaîne, on va s'habituer. Maintenant, on continue notre cours d'introduction. Alors, je vous rappelle que lorsque j'ai introduction, c'est pas comme une introduction d'un livre. Ces cours d'introduction sont extrêmement importants. Et sont en fait les bases et les notions des halakhot de Shabbat, de tous les cours qu'on va faire par la suite des halakhot de Shabbat. Donc, ces cours, je vous dis qu'on ne peut pas les comprendre en une fois. On ne peut pas tous les capter en un cours. Il faut écouter ça. Ils sont enregistrés, les cours. Donc, c'est bien d'écouter plusieurs fois. Les autres cours, ils vont être beaucoup plus convariés à Khalema Asé. Ça va être beaucoup plus pratique. Ça va être plus dans les détails. Ça va être, là, c'est un peu difficile. Ça a l'air d'être un peu plus complexe. Mais lorsqu'on écoute plusieurs fois, on intègre dans toutes les choses nouvelles. Donc peut-être encore cette semaine, la semaine prochaine, ça va être encore des cours d'introduction, de notions. On va petit à petit continuer et accumuler des connaissances de base pour pouvoir après les utiliser pour la suite des shiurim. Alors, je veux récapituler très très brièvement ce qu'on a vu les deux semaines d'avant. On a appris, donc on parle des l'Hilchot Shabbat. Et alors, l'Hilchot de Shabbat, Shabbat, on a dit, il y a des choses positives à faire et il y a des choses négatives à ne pas faire. Le Zahor et Shamor. Maintenant, par la suite, on va étudier toutes les choses qui sont dans le Zahor. C'est plus facile, on va dire, à étudier, c'est plus, beaucoup moins de détails, beaucoup plus simple. C'est-à-dire que la porte, comme le Kiddush, comment, les Tfilotes, tu en as pris? Allô?
Oui, oui, on t'écoute.
Je me vois plus là dans le. C'est pas grave.
C'est pas grave.
Oui.
On te voit plus, je sais pas pourquoi. Internet marche pas très bien ce soir.
Vous me voyez en tout cas.
On te voit, le son est nettement meilleur que la semaine dernière.
Moi je vois pas moi.
Tout à fait.
On te voit pas, on voit un. Le...
Je vois un animal avec une kippa de Nachman.
C'est le logo de d'Avinu Chai. Allez,
D'accord, ok.
Tu peux continuer, Mordechai.
Ouais, ma photo a disparu. Ouais.
C'est pas grave.
Je résume brièvement les cours d'avant. On a dit en quelques mots à la fin du cours de la semaine dernière, peut-être on peut résumer ça en quelques mots. Il y a quatre termes qui consistent à dire les termes, ils sont comme ça. Moutard, assour, khayab, patour. Moutard, c'est permis. Assour, interdit. Alors, lorsqu'on dit c'est interdit, alors bien sûr, il y a deux classes. Il y a les interdits qui sont de la Torah et les interdits qui sont des Chachamim. L'interdit qui est dans la Torah, on a vu ça dans le premier cours, on a développé ça bien, ça s'appelle Melacha. Quand la Torah nous dit clairement, noir sur blanc, ne fait pas de Melacha le jour du Shabbat. L'autre, c'est pas Melacha dans les 10 commandements. Bien sûr, la Torah ne nous dit pas c'est quoi ces Melachot, mais la loi orale nous dit qu'il y a une liste de 39. On a expliqué la semaine dernière que c'est beaucoup plus que 39. J'ai même vu un idéal qui dit que chaque Melacha, c'est-à-dire pour chaque liste de Melachot qu'il y a dans la Mishnah 39, il y a 39 dérivés pour chaque Melacha. Donc si vous voulez faire le point.
Allô? Je m'entends pas.
Allô?
Allô? Allô, je m'entends pas.
Tu continues, Mordechai?
Vous m'entendez?
Oui, moi je vous entends. On vous entend?
Je n'ai pas de connexion, s'il vous plaît. Pourriez-vous. Allô, vous m'entendez?
Oui, je vais raccrocher, je rappelle. Tu nous entends, Mordechai?
Oui, je vous entends.
Moi non plus, j'ai pas de connexion.
Vous nous entendez, Daniel?
Oui, là, oui, je vous entends. C'est bon.
Chantal, tu nous entends?
J'entends, oui. Maintenant, j'entends. Je t'entends, toi, mais Mordechai, tout à l'heure, je n'entendais pas.
Voilà. Mordechai, tu peux reparler maintenant?
On continue.
Ouais, c'est bon.
Donc, il y a des Issourim qui sont des interdits qui sont de la Torah, c'est-à-dire les interdits qui sont interdits par la Torah, ce sont les Melachot, que la Torah nous dit ne fait pas de Melacha. D'où je peux savoir qu'est-ce qui est interdit de faire? C'est pas du tout marqué dans la Torah. On a la liste. Mais d'où Chachamim ont sorti cette liste? Alors, on a expliqué, c'est la juxtaposition dans la Torah à la construction du Mishkan. Pour construire le Mishkan, il faut 39 actions pères, comme on a expliqué la semaine dernière, père-enfant. 39 actions pères, et elle est dérivée. Et pour chaque action père, il y a beaucoup de dérivés. Donc maintenant, je vous ai dit même qu'il y a des Amoraïm qui sont, des Amoraïm de la Gemara, qui sont assis, qui ont réfléchi, et qui ont trouvé pour chaque Melacha, pour chaque action père, 39 dérivés. Donc si vous faites le compte, c'est que bon, maths, ça fait 39 ou à 39. Donc il y a beaucoup plus d'actions interdites par la Torah, et en fait 39 fois 39. Et même des actions aussi qui vont ressembler à ça. Ça, ce sont les actions qui sont interdites de la Torah. Donc on a les Issourim de la Torah. Ensuite, on a les Issourim de Chachamim. C'est-à-dire que Chachamim viennent aussi dans le négatif ou dans le positif. Pardon?
Oui, oui, continue.
C'est bon, on continue?
Oui, oui.
Il y a les actions des Chachamim. Chachamim viennent renforcer les mitzvot de la Torah. Donc dans le Shabbat, ils viennent renforcer le positif avec des actions positives. Exemple, allumer les nerot avant l'entrée de Shabbat. Allumer les nerot avant l'entrée de Shabbat, c'est Chachamim, c'est les sages qui vont instituer ça pour renforcer le côté positif du Shabbat. Et dans le négatif aussi, toutes sortes d'introductions, comme on a développé dans le cours dernier, toutes sortes de formes, on n'est pas obligé de retenir toutes les formes que j'ai dit, mais c'est juste, je vais donner ça pour que vous voyez, toutes sortes de interdits que le Chachamim font. Plusieurs classifications d'interdits que le Chachamim nous font. Dans les interdits, donc on a dit, moutard, c'est permis. Interdit, il y a des interdits qui sont des Chachamim. Maintenant, dans l'interdit de la Torah, on va appeler ça Chayav. Chayav, c'est-à-dire un devoir. On va expliquer par la suite c'est quoi ce mot Chayav. Mais Chayav, c'est le terme qu'on emploie pour dire qu'on a transgressé une Melacha. Melacha qui est marquée dans la Torah, ne pas faire de Melacha. Dès qu'on transgresse une Melacha, on va appeler ça que l'homme est Chayav. Il a fait quelque chose qui est assourd par la Torah, il est Chayav. Si ça est sourd des Rabbanan, il a transgressé une interdiction des Chachamim, qui n'est pas exact l'action elle-même de la Melacha. Il est assourd, mais il n'est pas Chayav. Donc on a vu Moutard, permis, interdit des Chachamim, interdit de la Torah qui s'appelle Chayav. Maintenant, dans l'interdit de la Torah, il faut beaucoup de conditions réunies pour dire que l'homme a transgressé la Melacha. Dès qu'il mange une des conditions, on passe de Chayav à Patour. Patour exempté, c'est-à-dire qu'on dit que cette personne n'a pas transgressé l'interdit de la Torah. Comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est Patour, Aval, Asour. C'est-à-dire c'est Patour, tu n'as pas transgressé l'interdiction de la Torah, mais c'est interdit par les Chachamim. Donc on a deux sortes d'interdits de Chachamim. Un interdit de Chachamim qui consiste à toutes sortes d'actions qui ne sont pas directement liées à la Melacha, à la liste des 39 et des dérivés, mais on interdit pour renforcer les Melachot. Et on a un Derabanan qui se fait de manière automatique lorsque la Melacha est faite, mais qui manque une des conditions. Et c'est ça le chiour d'aujourd'hui. On va commencer à voir, et même le chiour de la semaine prochaine. C'est que là, ça va être un peu plus complexe. On va aller bien essayer d'expliquer toutes les conditions qu'il faut pour dire que l'homme, vous voyez par exemple, qui a une Melacha, et bien pour que cette Melacha et dire que cet homme a transgressé le jour de la Torah, il faut tout un nombre de conditions. Donc on va essayer d'apprendre, c'est des nouvelles notions, chaque condition c'est une notion importante, pour nous dire que, donc c'est difficile à dire que l'homme arrive à transgresser un jour de la Torah. Il faut qu'il remplisse un certain nombre de conditions réunies. Pas une des conditions suffit. Il faut toutes les conditions. Maintenant, il faut étudier c'est qu'est-ce qui s'appelle en fait, qui est marqué dans la Torah, ne fait pas de Melacha. Quelles conditions vont remplir à cette définition de Melacha, c'est-à-dire interdit de la Torah. Ça, c'est le récapitulatif des cours de la semaine dernière. Maintenant, on continue. Lorsqu'on dit le mot Chayav, alors là, il faut comprendre que ce que c'est Chayav. On a dit quelqu'un qui, Chayav, je répète, c'est quelqu'un qui a transgressé un issour de la Torah. Transgresser un issour de la Torah, il est Chayav. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux et degrés dans le Chayav. Je reviens toujours à la base, ce qu'on a dit dès le début du premier cours. La source des 39 travaux interdits, elle vient du Mishkan. La construction du Mishkan. La construction du Mishkan, dans les psukim, dans les versets de, qui traitent, dans Vayakel, Bekoudé, qui traitent la construction du Mishkan, il est cité comme ça. La'asot bechol melechet machashevet. C'est-à-dire, les constructeurs du Mishkan. C'est-à-dire, Betzalel, du chevet de Yehuda, et Aholiab, du chevet de Dan. C'est les deux grands constructeurs, et pas seulement constructeurs, architectes du Mishkan. Donc, là-bas, la Mishnah nous dit que dans la construction, tous les actes ont été réfléchis. Machashevet. Melechet machashevet. C'est-à-dire, une action qui est réfléchie. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir, là, c'est un fondement de base, ça, et avec ça, on va comprendre toutes les conditions qu'on va voir par la suite. C'est que Shabbat, lorsqu'on dit, ne fait pas d'action. Alors, on ne regarde pas l'action qui a été faite. Je m'explique. C'est-à-dire, l'action ne définit pas que la Melacha a été faite. Si je demande, par exemple, à quelqu'un, construis-moi un bâtiment, ben, le but, c'est que le bâtiment soit construit. Tant que le bâtiment n'est pas construit, on va dire qu'il n'a pas construit le bâtiment. Ben, Shabbat, c'est différent. Shabbat, c'est vrai qu'il y a aussi la Melacha, l'agir, de créer, mais surtout, il faut que derrière, il y ait la pensée. C'est-à-dire qu'un acte ne peut être défini de transgresser l'interdit de Shabbat que s'il y a l'acte plus la pensée. La pensée qui vient derrière. Pensée plus acte, ça s'appelle dans le Mishkan. Avec tout ce qui est dans le Mishkan, on le transpose dans le Shabbat. Les 39, on les a appelés du Mishkan. Donc même la manière de faire les mélapotes du Mishkan, ils vont être les mêmes règles dans Shabbat. Donc on va voir ça sous différentes formes. Donc Melechet Machashevet, c'est un travail qui est avec plus la pensée derrière. Donc maintenant, puisqu'on a défini ça, et donc ça c'est aussi le tenaille pour dire que c'est une Melacha. Lota Asu Kol Melacha, sous-entendu Melechet Machashevet, du mot Machshava, pensée. Alors maintenant si on a compris ça, on peut maintenant comprendre les différentes classes qu'il y a dans le Chiyuv. C'est-à-dire, Chiyuv, je reprends, le mot Chayav, c'est-à-dire quelqu'un qui a transgressé un issur Torah. Alors, il peut avoir plusieurs manières. Il peut avoir quelqu'un qui a transgressé le issur Torah Béchogeg. Il peut avoir quelqu'un qui a transgressé le issur Torah Bémézid. Et puis, il y a quelqu'un qui a transgressé le issur Torah. En hébreu, ça s'appelle Mit'asek. Alors, on va tout expliquer, bien sûr. Mais le point commun, c'est que ces trois personnes-là, les deux, l'acte a été agi. Alors, si on prend, par exemple, un cas très simple, on va dire, allumer la lumière. La lumière, elle est dans cette pièce, il faisait noir. Et maintenant, c'est allumé. Donc, la mélacha a été faite. Seulement, tout dépend de la pensée de la personne lorsqu'elle a fait cette mélacha. Est-ce qu'elle a fait ça Béchoké. Et donc là, ça va avoir un titre de Chayav Bar, c'est-à-dire Chayav Korban, comme on expliquait ça la semaine dernière. Pour amener un Korban au temps du Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash, on ne fait rien. Chayav Korban. C'est-à-dire qu'il a transgressé le Issur Torah. Seulement, c'est un niveau bas, un niveau inférieur, c'est-à-dire il est Chayav de Korban. Plus haut, il y a Mézid. Mézid, on n'a pas encore vu cette notion, Mézid, c'est volontaire. Donc, pour comprendre le volontaire, il faut expliquer c'est quoi le shogeg, c'est quoi le involontaire. Alors, il y a deux définitions au shogeg. Deux définitions au shogeg. Première définition, c'est quelqu'un qui ne sait pas que cette chose-là est interdite. Il n'a jamais appris, par exemple, on n'a pas le droit de porter dehors, dans un domaine public, n'importe quel objet. Il ne sait pas, il n'a jamais appris. Donc il transgresse l'interdit de Shabbat. Seulement, il ne sait pas que c'est interdit. Donc il a transgressé Béchogeg. Transgresser le Shabbat Béchogeg, au temps du Beth Amikdash, il doit amener un korban. Et c'est ça son chiyou, c'est ça le chaya. Et c'est fini, il n'a plus d'autres chiyou en plus, c'est le niveau inférieur de la transgression de Shabbat par Shogeg. Il y a une deuxième sorte de shogeg. Quelle deuxième sorte? Quelqu'un se réveille le matin, Shabbat matin, très fatigué, il a dû dormir tard, et comme tous les matins, il va, il prend la bouilloire, il se fait un verre de café. C'est tout à fait que c'est interdit d'allumer une bouilloire et de choper de l'eau pour faire du café. Et une fois qu'il a bu plusieurs gorgées de café, il se rend compte, aujourd'hui c'est Shabbat. Donc au moment où il a fait l'action, il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il sait que c'est interdit, mais il ne sait pas que c'est Shabbat, que c'est un autre jour. Ça aussi, ça rentre dans le shogeg. C'est-à-dire, l'acte n'a pas été fait de volontaire. Donc, c'est un acte qui manque. Il manque beaucoup de choses. Il manque la volonté. Il manque la marchava. Donc, l'acte a été fait. On ne peut pas dire que ça a été fait. Il a quand même été fait avec une certaine pensée, mais ce n'est pas une pensée qui est assez forte pour rendre Hayav à un niveau élevé. Donc, c'est un niveau inférieur, Hayav de Korban. Ça, c'est les deux sortes de shogeg. Ensuite, on passe au niveau plus haut, au niveau de Mézid. Alors là, Mézid, c'est volontaire. C'est-à-dire quelqu'un, il sait très bien que c'est Shabbat, il sait très bien que c'est interdit, et il décide quand même de faire cette mélacha, qui est de la Torah, comme on va en entendre parler maintenant de la Torah. Donc là, il est Chayav. Qu'est-ce qu'il est Chayav? Là, le mot Chayav, il va avoir un autre sens. Le mot Chayav, il va être coupable. D'accord? Coupable. Alors, dès qu'on commence à parler de coupable, là, il faut faire une petite introduction. Et il faut comprendre. Vous savez que la Torah, hein, dans les, tout ce qui est négatif, elle nous dit en même temps, avec le négatif, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un transgresse cette chose-là? Lorsque quelqu'un transgresse telle chose de la Torah. Quelle punition, quelle chose, de quelle chose il est coupable lorsqu'il a transgressé cette chose-là de la Torah. Alors il y a beaucoup, beaucoup de niveaux de onashim. Alors n'ayez pas peur, on ne va pas traiter ça à tous les shiurim. On va juste dire de manière claire pour qu'on comprenne une fois quel est le sens de toutes les punitions qu'il y a marquées dans la Torah. On va donner un exemple d'abord, on va commencer à expliquer. Par exemple, il y a un... Dans un hôpital, il y a une chambre, un bloc opératoire. C'est-à-dire qu'au bloc opératoire, alors il doit y avoir là-bas toute une notice d'information, beaucoup, beaucoup écrit en rouge, interdit de faire ça, interdit de faire ça, interdit de rentrer comme ça, et interdit d'utiliser des ustensiles de telle manière, toute une liste d'interdits. Donc, Pourquoi on interdit toutes ces choses-là? Et avec ça, la gravité des choses qui vient avec cet interdit-là. Si on interdit, il y a un grand principe. La Torah, lorsqu'elle nous donne, nous dit des interdits, et que la Torah va nous dire même des punitions à ces interdits, et toutes les sortes de gravité, le but, c'est pas d'interdire, et le but, c'est pas de punir. Le but, c'est que derrière ces choses, se cachent des choses extrêmement importantes. Et plus la chose va être importante, plus il va falloir faire d'interdits pour pouvoir arriver à cette chose-là qui est importante. Donc dans notre cas, dans notre machin à nous, pour que l'opération réussisse, il va falloir toute une sorte d'interdits pour qu'on comprenne la gravité, pour pas comprendre la gravité. C'est-à-dire qu'on explique la gravité de telle ou telle chose pour qu'en fait on comprenne l'inverse, l'importance de la chose. Donc plus la punition va être forte, faut pas regarder ça de manière négative, voir derrière le négatif quelque chose de très très important qui se passe derrière cette chose-là, dans le kiyum de la Torah et dans les mitzvot. Donc maintenant, si on revient à notre dilemme de Shabbat, on va dire brièvement les niveaux de onashim, de punition qu'il y a sur chaque interdit de la Torah. Alors il y a des onashim qui sont mita, bide, shamaim. Mita, bide, shamaim. Ça veut dire que c'est une, on va dire, passible de mort qui vient mina shamayim. Mina shamayim, ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu, sans passer par le beddin. Ensuite, il y a des passibles de mita beddin. Beddin, ce sont les beddin, c'est-à-dire le tribunal, au temps bien sûr de la Gemara, aujourd'hui on peut plus, aucun beddin ne peut dire passible de mort, mais à l'époque de la Gemara, il y a des tribunaux qui décident selon la gravité de la faute les punitions. Plus la punition est un et plus l'interdit est important, plus la punition va être à son niveau. Alors on a quatre méthodes beddin. Quelles sont les quatre méthodes beddin? Skila, srefa, hereg, renek. Je vous dis juste la dernière, la plus grave, c'est Skila. Skila, c'est-à-dire lapider.
Skila? Pardon, excusez-moi. Skila.
Skila, c'est lapider. D'accord? C'est le plus haut degré de punition qu'on trouve dans la Torah. C'est-à-dire, c'est la punition la plus forte qu'on peut trouver dans les interdits de la Torah. C'est Skila. On est en dessous de ça, il y a Karet. Chayav. Karet. Chayav karet, c'est, il y a toutes sortes d'interdits qui sont très importants dans la Torah. Et donc, pas toute interdiction de la Torah est chayav karet. C'est pas du tout aussi la majorité. C'est quelques interdits qui sont dans la Torah. Exemple, celui de quelqu'un qui mange à Yom Kippour. D'accord? Ça aussi, c'est interdit. Quelqu'un qui mange du chametz à Pessah. Tout ça, c'est la punition, elle est chayav karet. Comme je vous ai dit, comment il faut regarder cette chose-là? C'est que si on est chayav karet d'après quelqu'un qui mange à Yom Kippour ou qui mange du chametz à Pessah, par exemple, on comprend l'importance de Yom Kippour et on comprend l'importance de Pessah. Maintenant, si on monte de niveau dans Shabbat, maintenant on applique ça à Shabbat. À Shabbat, lorsqu'on applique ça maintenant à Shabbat, il va y avoir deux cas de figure. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais je vous dis à titre de connaissance, pour qu'on comprenne, je vous montre où est-ce qu'elle est, pour qu'on découvre ensemble quelle est l'importance du Shabbat. Lorsqu'on parle, tout à l'heure on a parlé de Shogeg. Shogeg, je sais pas que c'est Shabbat, je sais pas que c'est interdit. Et comme on a dit qu'il faut l'acte plus la pensée, donc si ça vient avec une pensée que je sais pas que c'est Shabbat, je sais pas que c'est interdit, eh ben, il y a aucune punition. Il y a juste un devoir d'amener un corban. C'est très faible, c'est pas. Mais si je monte de niveau, je suis dans le volontaire. Alors là, il y a deux niveaux. Premier niveau, il y a un principe qui s'appelle Hatra'a. Hatra'a, c'est prévenir. C'est-à-dire quelqu'un, quel exemple on va donner, l'exemple par exemple de quelqu'un qui veut prendre la voiture au jour de Shabbat. Donc il décide de prendre la voiture volontairement, il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est interdit. Seulement il y a quelqu'un, personne ne lui a rien dit, il a décidé ça de lui-même. Ça s'appelle sans atra'a. Atra'a, c'est-à-dire prévenir. Personne ne lui a prévenu. Il sait, mais personne ne lui a prévenu. Attention, c'est interdit. Il a fait ça de lui-même. Ça, le chiouf qu'il y a, la punition qu'il y a sur cet acte, c'est chayav karet. C'est-à-dire que tous les interdits de Shabbat, que quelqu'un fait de manière volontaire, et qui sait que c'est Shabbat, et qui sait que c'est interdit, la punition, elle est chayav karet. Il y a beaucoup à parler sur ce que c'est midi ou karet. Karet, on a l'habitude de traduire retranché. Je ne sais pas si c'est une vraie, véritable traduction retranchée du peuple juif, ça sonne un peu trop karet. Karet, en hébreu, c'est couper. Lorsqu'on coupe quelque chose, ça s'appelle l'ichrot, pour être abéri. D'accord? Couper. L'âme, notre âme, chaque âme, notre âme, c'est-à-dire l'âme du Ham Israël, la Neshama du Ham Israël, elle est reliée, elle reçoit une certaine lumière par l'intermédiaire des mitzvot qu'on fait. Que ce soit une mitzvah positive ou que ce soit une mitzvah négative. L'explication que je vous donne, c'est le Or HaChaim HaKadosh qui dit la même. Le mot karet, lorsqu'on parle de retrancher, c'est-à-dire que, on va par exemple dire une mitzvah comme la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de Shabbat, lorsque quelqu'un fait une avéra volontaire, donc maintenant, la chose qui va être, la mitzvah qui va être par rapport à son âme, l'âme, elle est à l'image de notre corps. Dans notre corps, il y a 248 membres et 365 vertèbres. Chaque vertèbre, c'est selon un des interdits de la Torah. Et chaque membre, c'est selon un des actes positifs de la Torah. On fait des mitzvot avec la main, avec les yeux, avec les pieds. Tout est par rapport. Donc lorsque je dis maintenant le corps qui est matériel, il y a aussi un corps spirituel, c'est notre neshama. Et elle est par rapport aux toutes les mitzvot, positives et négatives. Donc lorsque je vais accomplir toutes les mitzvot positives et négatives, je veux éclairer et allumer en fait ma neshama. Lorsque je n'accomplis pas les mitzvot positives, ou je transgresse et interdit, alors j'éteins, en fait, si on peut appeler ça, par image, ma neshama. Donc le karet, en fait, c'est que, à ce niveau-là, de cette mitzvah qui va éclairer ma neshama, eh ben, je karet, c'est coupé. Il y a une, on va dire, une coupure d'électricité, si on peut appeler ça comme ça. Il y aura une coupure de lumière qui vient sur ma neshama. Donc plus la faute va être grave, plus l'homme est déconnecté, en fait, de manière ouhrani. Ça, c'est le karet. Ça, c'est l'explication, en fait, du karet. Mais, comme on voit, il y a aussi au niveau de la punition. Il y a toutes sortes de punitions qui viennent définir le mot karet. Ici, ce n'est pas notre sujet de définir quel est le bédiouk, quelle punition il y a dans karet. Mais, ça, c'est la définition du mot de karet. Ça se rapporte à tous les actes de Shabbat qu'on fait de manière volontaire. Maintenant, on augmente de niveau. Quelqu'un qui, on va parler d'ailleurs du prendre la voiture, seulement avant qu'il prenne la voiture, on lui prévient, on lui dit, c'est quoi? C'est interdit de prendre la voiture Shabbat. Il y a deux personnes, il y a plusieurs détails que j'ai pas en tête maintenant, parce que ça n'existe plus aujourd'hui. On lui précise, on lui dit, attention, ne prends pas la voiture. Et quand même, il prend. Alors là, on monte de niveau, là, ça devient plus grave encore. Là, on passe au niveau des Chayavé Mitot Bide Shanaï, Bide Beddin, par l'intermédiaire du tribunal. Et ça sera la punition de lapidé. Hayam Skila. Maintenant, on voit que c'est la plus grave des punitions. Donc, lorsque quelqu'un transgresse un acte de manière, on lui a prévenu, et quand même il le fait de manière volontaire, la punition, elle est très grave, c'est Hayam Skila. Pourquoi aujourd'hui ça n'existe plus Skila? Parce qu'il n'y a plus de Beit Din. Donc, aujourd'hui, le maximum qu'on peut arriver, c'est Karet. C'est déjà très grave. Donc, tout ce qu'on a dit, le but de Karet, le but des punitions, c'est pour nous apprendre l'importance des mitzvot. Le Rambam, le Maïmonim, il cite comme ça lorsqu'il parle du Shabbat. Il dit, il y a deux interdits les plus graves qui sont dans la Torah. Quel interdit? L'idolâtrie et le Shabbat. C'est-à-dire, en fait, transgression du Shabbat. Le Rambam va de manière très forte nous dire quelque chose, que celui qui transgresse, qui accomplit l'idolâtrie, ou bien qui transgresse le Shabbat, regardez la comparaison. C'est-à-dire que le Rambam nous met au même niveau l'idolâtrie, qui est complètement nié toutes les distances de Dieu et de tout le judaïsme, avec transgresser le Shabbat, de manière volontaire. Il les met au même niveau, et il nous dit que si, là il monte encore un niveau de plus, C'est un niveau qui s'appelle Mézid volontaire Befaresia. Alors Befaresia, c'est vraiment compliqué en araméen, c'est-à-dire en public. Il y a aussi une différence. Si je transgresse le Shabbat volontaire chez moi à la maison, ou bien de manière ouverte. Alors même ça, il faut savoir comment expliquer, ça veut dire quoi de manière ouverte. Là, il y a pas mal de d'avis. Si vous connaissez le Rav Ben Tzion Abba Shaul, il décrit que pour appeler Mechalel Shabbat Befaresia, c'est-à-dire transgresser le Shabbat de manière ouverte, il nous décrit par exemple, c'est si quelqu'un transgresse le Shabbat, même dehors, dans la rue, devant tout le monde, mais dès qu'il voit une personne importante, un rave, tout de suite, il a honte et il s'arrête de faire devant lui. C'est-à-dire qu'il est en train de fumer, des choses interdites du jour de Shabbat. Dès qu'il voit un rabbin, il cache tout de suite la cigarette. Un rabbin ou quelqu'un qui est pieux, qui est bien quelqu'un d'important, un personnage important, il cache tout de suite sa cigarette et il s'arrête de fumer. Là, ça ne s'appelle pas encore qu'il est à Merkalel Shabbat de manière ouverte. Ça s'appelle le mézid classique qu'on a vu tout à l'heure. Et pas un corps befaresien. Si quelqu'un, par exemple, il vient en voiture Shabbat au Beit Knesset, alors il y a deux personnes. Il y en a un qui va se garer derrière la synagogue, il y en a un qui va se garer devant tout le monde. Celui qui se garde devant, il est Merkalel Shabbat, il profane le Shabbat de manière ouverte devant toutes sortes de personnes, parce que tout le monde peut le voir à l'entrée de la synagogue. Là, on rentre dans une classe qui est plus importante, qui s'appelle Mechalel Shabbat Befaresia. Qui nous dit, que nous dit le Rambam?
Excusez-moi, vous dites, pardon, je ne comprends pas trop bien. Vous dites oui. Mechalel Shabbat
Befaresia. Alors, je reprends. Befaresia. C'est un mot en araméen.
Befaresia.
C'est-à-dire, de manière ouverte. En public.
D'accord. Non, mais ça, d'accord, ok. Mais c'est en hébreu que je n'arrive pas le. Alors, Mechalel Shabbat Befaresia.
C'est proche de l'hébreu, en araméen.
D'accord, ok. Merci.
Donc,
excusez-moi, hein.
Qu'est-ce qu'il nous dit le Maïmonide sur quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia? Là, il nous dit quelque chose de très, très fort, très choquant même. Mais le Rambam, le Maïmonide, dit ça de manière claire. En fait, sa source, elle est de la Gemara. Il nous dit qu'il est considéré comme un non-juif. Comme un non-juif, c'est-à-dire, depuis quand un juif peut être considéré comme un non-juif? C'est-à-dire, il y a certaines règles qu'on va le considérer comme un non-juif. Bien sûr, Israël n'a pas de vichefata, Israël ou un juif, même s'il est au plus bas de tous les niveaux, au fin fond de l'idolâtrie, il reste toujours juif. Il ne change pas de statut de juif. Seulement, nous, on va le considérer comme un non-juif. Bon, de quoi ça peut nous parler? S'il fait une shrita, on peut pas manger de sa viande. Si on a un minyan, on peut pas le compter dans les 10 personnes en tant que minyan. Alors bien sûr, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Je m'attends pas surtout les pratiques de définition pour arriver à ce niveau-là. Il faut que la personne sache très bien, il faut qu'il fasse de manière volontaire, il faut qu'il n'ait pas honte devant même quelqu'un de très important, ce qui est assez rare. Mais pourquoi je vous dis toutes ces choses-là? Pour montrer l'état de gravité qu'on peut arriver lorsqu'on est trop profane le Shabbat de manière visible. Si c'est comme ça, alors venez maintenant, on va faire l'inverse. Si on est prêt, le Rambam, le Maïmonide nous dit qu'il est considéré même comme un non-juif, on le considère comme un non-juif, pas il est considéré, on le considère comme un non-juif, c'est-à-dire que la shmira du Shabbat, le fait de garder le Shabbat, c'est en fait dévoiler notre identité juive. C'est-à-dire que la shmira du Shabbat, regardez le Rambam qui ne met pas au même niveau que l'idolâtrie. C'est-à-dire que quelqu'un qui garde le Shabbat, il va prouver et il va dévoiler à tout le monde, je suis juif et je suis croyant. L'inverse pour quelqu'un qui est mechalel le Shabbat. Donc, le cas positif, ça veut dire que le Shabbat, en fait, nous définit en tant que juif. Avec le Shabbat, pour la Torah, pour la Shabbat qui dit ça, on appelle ça Hot. Hot béni ou ben béni Israël. Hot hi leolam. Entre moi et le Ram Israël, c'est un Hot, c'est-à-dire c'est un signe. Si on parle de signe, ça veut dire qu'on identifie avec des signes. Le signe, c'est pas seulement un signe, c'est un signe pour identifier. Lorsqu'on a, par exemple, quelque chose qui est perdu dans le Yeshut HaRabim, dans le domaine public, pour le ramener à ses Pour Pieter, il pose deux signes. Pareil pour le juif. Il y a toujours deux signes avec lui. En fait, il y a trois signes. Il y a trois mitzvot qui s'appellent hot, qui nous identifient en tant que juifs. La mitzvah de la Brit Mila, qui s'appelle aussi hot. La mitzvah des tfilin, les tfilater, ouais, les tfilin, qu'on met chaque matin, ça s'appelle aussi hot. Et le Shabbat. Ces trois choses-là s'appellent hot. Non, le Shabbat, c'est plus un corps. Par exemple, les femmes n'ont pas les deux premiers hot. Les tfilin et la Brit Mila, c'est qu'aux hommes. Par contre, le Shabbat, on a dit ça dans des cours précédents, c'est hommes et femmes exactement pareil. Donc, le Shabbat, garder le Shabbat, c'est ce qui nous définit en tant que juifs. Je donne un exemple, par exemple, si on est toujours à l'exemple du médecin, par exemple, il y a quelqu'un qui a fait un diagnostic avec plein de maladies. Malade dans le pied, malade dans la main, il a plusieurs problèmes. Mais il est aussi parti chez un cardiologue. Et le cardiologue, il dit qu'il a un problème avec le cœur. Alors là, on va mettre tous les problèmes de côté, on va directement s'occuper du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est l'essence même de toute la personne, toute sa brio, toute sa santé. Pareil pour le Shabbat. Le Shabbat, c'est le cœur du judaïsme. Le cœur est la base du judaïsme. Donc c'est le fondement du judaïsme. Et maintenant, on comprend, rétroactivement, on comprend c'est quoi toutes ces punitions qu'on voit, et même Mézid et... Toutes ces punitions, ça vient nous montrer en fait la gravité de transgresser le Shabbat, parce qu'en transgressant le Shabbat, en fait, en deux mots, c'est de dire je m'exclus du peuple juif. Béni ou même béni Israël, hot et l'éolam. Donc ça, c'est l'explication du Mézid. On a expliqué le Shogeg, ensuite on a expliqué Shogeg, c'est-à-dire je ne sais pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, ou je ne sais pas que c'est interdit. Ensuite, Mézid, c'est je sais que c'est interdit. Volontaire, et là il y a le chayav, c'est-à-dire coupable. Coupable ou de karet, ou de ce qu'il a. Aujourd'hui, c'est chriou de, je ne dirais plus de bedin, donc c'est chriou karet. Troisième sorte, là c'est intéressant, qui s'appelle mit asek. Je reprends toujours le cas simple, on va dire le cas de la lumière. Tout à l'heure on a parlé, il y a une chambre qui est éteinte, et la lumière s'allume. Donc, dans les mélachot, il y a allumer la lumière, c'est lorsque j'allume, il y a le filament de l'ampoule qui va se combiner, et le filament, c'est mélacha, c'est mélachet mabir, c'est mélacha interdit par la Torah. On va dire que quelqu'un est rentré dans la pièce, et il s'est adossé au mur. Il n'a pas vu du tout la chose de faire. En s'adossant au mur, avec son coude, on va dire, il a allumé la lumière. Donc on est d'accord que l'acte a été fait. L'acte de la Torah a été fait. Seulement, où est-ce qu'elle est la pensée ici? Il n'y a aucune pensée. La personne n'a pas du tout pensé à allumer la lumière. Donc voilà un cas de Issur Torah, interdit de la Torah, Melacha. Mais il y a, derrière ça, c'est là on descend par rapport au niveau de Shogeg. C'est pas qui. Shogeg, l'acte, il est quand même, il y a quand même quelque chose de volontaire dans l'acte de Shogeg. C'est-à-dire volontaire. Pas volontaire par rapport au Shabbat, volontaire par rapport à l'acte. Je veux maintenant allumer la lumière. Ah, mais je sais pas que c'est Shabbat. Ah, je sais pas que c'est interdit. Ça, c'est Shogeg. Et si on descend de niveau et que la lumière s'allume, mais j'ai pas du tout pensé à allumer la lumière, ça s'allumait sans que je pense. On dit pas que cette personne a commis un sorcier, si on traduit, on voit que la personne a commis tel acte. Dans d'autres domaines, ça s'appelle que tu as commis cet acte. Mais dans Shabbat, c'est pas comme ça. Comme on a dit, Melechet Machashevet. Il manque toute la pensée ici. Donc là, il n'y a aucun issur. Et puis, c'est pas possible d'interdire cette chose-là, puisque c'est quelque chose qui se fait pas sans la pensée. Donc cette personne n'a rien transgressé, et rien, pas du tout, il n'est pas du tout préféré le Shabbat dans toutes les formes possibles. C'est en dessous du Shogeg. C'est même pas un interdit qu'il a fait. D'accord?
Allô, Mordechai?
Allô?
Ok, on a perdu. Il n'y a pas de connexion là. Je raccroche, je rappelle tout le monde.
Ok, d'accord.
Tout de suite. Allô? Oui.
Oui, c'est Yona ici.
Vous êtes là, Yona? Vous êtes là, Daniel? Daniel, vous êtes là? Allô, Daniel? Mordechai? Chantal?
Oui, moi je suis là.
Mordechai? Impossible de se connecter. On a perdu. Daniel, vous êtes là?
Allô?
Oui, vous êtes là. Très bien.
Oui, c'est bon.
Mordechai, oui, tu es là? Mordechai, tu es là? Non, on l'a perdu.
Ah, non plus. C'est dommage.
Attendez, on va le retrouver, vous inquiétez pas. Le risque de la technique. Alors, il est où? Bon, je réessaye. Ah, ça y est, il est connecté. Attendez, il faut que je le retrouve. Je l'ajoute à la conférence. Appel Skype. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Mordechai, tu es là? Allô, Mordechai? Non. On raccroche. Raccroche, on rappelle. Allô? Qui est là? Mordechai, tu es là? Mordechai, tu es là? Oh. Dommage.
Allô?
Oui, qui est là?
Allô, allô?
Chantal est là, d'accord.
Oui.
Mordechai, tu es là?
Oui.
Daniel, vous êtes là, je vous vois.
Oui.
Très bien. Allô?
C'est bon. Allô?
Très bien. Donc, je pense que les gens vont disparaître petit à petit, ceux qui participent pas au cours. Et Mordechai, tu peux continuer.
Où je me suis arrêté, vous allez dire.
Mitrasek.
Où ça?
Mitrasek.
Ah, c'est Mitrasek.
Voilà, Mitrasek, c'est-à-dire.
Yona, vous êtes là? Allô, Yona? Yona, vous êtes là? Bon, vas-y, continue, Mordechai.
Mitrasek.
Je vais essayer de rattraper. Continue. Je vais rattraper la personne qui a disparu.
Donc, j'étais en train d'expliquer mitasek. Mitasek, en traduction de ça, ça veut dire quelqu'un qui fait un acte. On l'a dit, il fait exactement le même acte. L'acte a été accompli. Seulement, il n'y a pas du tout de pensée. Donc, on est en dessous, au niveau inférieur à Shogeg. Il n'y a aucune pensée. Donc, cette personne n'a commis aucun interdit. Il n'a pas du tout transgressé Shabbat dans toutes ses manières. Malgré que l'action a été faite. Parce que c'est pas du tout. Il manque la pensée, comme on a dit. Mais le chet, machashevet, asa. Donc, on a résumé les trois choses. Vous avez vu que dans les trois cas, tous les trois les actions ont été faites. Seulement, tout ce qui diffère, c'est la pensée qui vient avec l'acte. Shogeg, Mezid ou Mitasek. Donc, on s'est un peu étalé pour expliquer le Mezid. On a développé un peu toutes les sortes de punitions qu'il y a. Mais comme on a dit, le but, c'est pas de voir le côté négatif, c'est de...
On t'a perdu, Mordechai.
Allô?
Ah, c'est casse-pied ce truc. Mordechai, tu nous entends?
Oui,
Oui.
Bon. Allô?
Oui, je vous entends.
D'accord.
Qui est là?
Je n'entends pas Mordecai.
Chantal, tu es là?
Moi, je suis là. Oui.
Yona, vous êtes là? Mordechai, impossible de se connecter. Visiblement, il y a un problème à Bnei Brak. On va essayer de le rajouter à la conférence. Alors, on a un vrai problème de connexion ce soir.
Mm-hmm.
Pourtant, on a un très bon son. Hein.
Oui.
Par rapport à la semaine dernière, le son est excellent.
Tout à fait.
Donc, on va le reprendre. Le voilà. Ajouter à la conférence.
Ce n'est pas encore au point.
C'est déjà pas mal, je trouve. On est 6-7.
Oui.
Non, on ne voit pas les personnes.
Non, pour l'instant, on n'a pas récupéré. Je vais l'appeler. On a perdu Yona.
Les Mordechai également.
On l'a pas.
Oui.
Daniel, c'est vous qui me dites oui?
Oui, c'est moi.
Je reconnais votre voix. Ensuite, Yona, je pense que vous êtes... Ah non, elle n'est pas là. Mordechai non plus. Chantal doit être là. Nicolas doit être là. Il a le son qui est coupé, mais il est là. Mais Mordechai, non. Mordechai, tu es là? Non. Ah, il y a un vrai problème. Hein. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer. Je vais l'appeler.